Je ne voudrais pas, au terme de ces soirées, que l'oraison vous apparaisse seulement sous l'angle, je dis bien seulement, sous l'angle d'un tête-à-tête avec Dieu. Aussi, par cet entretien, je me propose de souligner la dimension ecclésiale de l'oraison. Le chrétien ne prie bien qu'en église. Retrouvons, voulez-vous, l'image que nous nous sommes plus à contempler. Jésus, brillant au sommet d'une colline, la nuit, sous un ciel fourmillant d'étoiles. Il loue son Père, il intercède pour les hommes de tous les pays et de tous les temps. Et quand il descend de la montagne au petit matin, il veut communiquer sa prière à tous ses disciples, à ceux qui l'entourent, mais aussi à tous ceux qui, au cours des siècles, seront conquis par lui. Vous vous souvenez sans doute que pour vous faire saisir cette diffusion planétaire de la prière du Christ, j'ai évoqué la nuit de Pâques, quand tous les petits cierges des fidèles s'allument au cierge pascal représentant le Christ ressuscité. Mais à vrai dire, cette image ne me donne pas pleine satisfaction, car chacune des petites flammes, finalement, devient indépendante. Saint Paul recourt à une autre comparaison qui permet d'aller beaucoup plus avant dans l'intelligence du mystère de l'Église. L'apôtre nous dit de l'Église quel est le corps du Christ. Eh bien, regardons un corps humain. Le cerveau meut chaque membre par l'influx nerveux qu'il lui communique. Ainsi dans l'Église, le grand corps du Christ, l'influx du Christ, c'est-à-dire l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, communique à chacun de ses membres la prière du Christ. C'est pourquoi le même saint Paul dit que le chrétien, lorsqu'il se recueille, devrait entendre au fond de son être le murmure de ce petit mot araméen par lequel le Christ s'adressait au Père, Abba, ce qui veut dire Père bien-aimé. Nous ne sommes souvent pas assez silencieux pour entendre ce murmure de l'amour du Christ en nous pour son Père. Ce corps humain dont nous parlons parfois présente des anomalies. Tel membre n'est pas docile à l'influx nerveux venant du cerveau. Ou bien il est paralysé, ou bien il fait des mouvements désordonnés. Ainsi en est-il des membres du corps du Christ que nous sommes. Beaucoup sont plus ou moins paralysés. Beaucoup font des mouvements aberrants. Et toute l'éducation chrétienne, toute l'ascèse chrétienne, consiste précisément à conquérir cette parfaite docilité à l'influx du Christ. Et l'oraison est incontestablement le moment privilégié pour nous ouvrir à cet influx du Christ, pour que sa prière devienne nôtre. Cette comparaison du corps montre fortement la nécessité pour le chrétien d'être relié au Christ, comme le membre est relié à la tête. Mais cette comparaison nous apporte un autre enseignement, celui de l'interdépendance des chrétiens comme sont interdépendants les membres d'un corps. Et c'est ce point de vue qui va me retenir ce soir. Je voudrais vous dire, ce n'est pas au seul Christ qu'à l'heure de l'oraison nous devons vouloir être reliés, mais à tous les autres membres du corps. Dans un corps, tous les membres sont solidaires. C'est l'admirable dogme de la communion des saints. je vais l'esquisser devant vous en en présentant trois aspects. Premièrement, tous pour chacun. Deuxièmement, chacun pour tous. Troisièmement, ensemble pour Dieu. Tous pour chacun. Quand on considère le corps humain, chaque membre, c'est bien évident, a besoin de tous. La main a besoin du cerveau, certes. Il commande ses mouvements, mais il a tout autant besoin des nerfs, des muscles, du cœur qui lui envoie le sang et de tous les autres organes. Ainsi dans le corps du Christ. J'ai besoin de tous les autres membres de ce corps et pour vivre et pour agir. Je ne puis dire je veux bien dépendre du Christ, mais non pas des autres, non pas de l'Église. Comme si la main pouvait se penser indépendamment des autres organes et des autres membres du corps. Si, à l'heure de l'oraison, je me rappelle cette dépendance vitale à l'égard des autres membres du corps, si j'y consens volontiers, alors les richesses spirituelles, des richesses spirituelles vont me venir de partout et en grande abondance. Parce que tous mes frères, explicitement ou implicitement, me communiquent leur trésor spirituel. Les carmélites qui prient. Le petit garçon qui ce soir fait sa prière au pied de son lit. Le pape qui récite son bréviaire. Les malades et les torturés qui offrent leur souffrance unie à celle du Christ. Toutes ces richesses viennent à moi comme les torrents se jettent dans la rivière. Mais remarquons-le, pour retirer plein profit de l'amour et de la prière de tous ces frères qui nous entourent, de tous ces visages tournés vers nous, il nous faut y recourir par la foi. Cela ne se perçoit pas, cela se croit. Il faut y consentir avec humilité. Malheur à l'individualiste qui prétend s'en tirer tout seul. Mais il y a plus admirable encore. À travers cette foule d'êtres qui m'environnent de toutes parts, de leur amour fraternel, lors de l'oraison, c'est Dieu lui-même qui me rejoint. De même que sur le plan physique, Dieu se sert de la terre, du soleil, de l'oxygène de l'air, des hommes mes frères, en un mot de tout l'univers physique, pour travailler à ma construction, pour me faire vivre. De même en est-il au plan spirituel. Ce grand corps du Christ est mon univers spirituel, dans lequel je suis immergé, et par chacun de ces êtres, peuplant cet univers, par chacun de ces hommes mes frères, Dieu se dit à moi, Dieu veut se donner à moi, l'action de Dieu veut passer à travers eux pour construire en moi l'enfant de Dieu. Je me plais pour ma part à penser avec reconnaissance à ces prêtres rencontrés au cours de mon enfance et de ma jeunesse, à qui je dois d'avoir rencontré le Christ. Mais il y a aussi tous ceux que je ne connais pas, et à qui, je le sais, je dois beaucoup. Qui sait ? Peut-être je dois ma vocation sacerdotale à une vieille paysanne chinoise profondément unie à Dieu, ou peut-être au Saint-Curé d'Ars. Il est bon de penser que Dieu ne cesse pas de nous enrichir, de nous former, de nous sanctifier par tous ses frères connus et inconnus, ceux de la terre et ceux du ciel, et entre tous, par la Vierge Marie. C'est par elle qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Et Jésus-Christ, nous le savons, associe sa mère à toute son action sanctificatrice. C'est pourquoi dans l'Église, elle a une place si privilégiée, et c'est pourquoi les chrétiens aiment se mettre sous son regard et se livrer à son influence. Ainsi, l'oraison est vraiment ce moment privilégié où de toutes parts nous viennent des secours fraternels, où Dieu, par tous ses frères, nous témoigne son amour et nous forme. Second aspect, j'ai besoin de tous les membres du corps du Christ, c'est ce que je viens de vous dire, en retour, tous ont besoin de moi. C'est la deuxième perspective, chacun pour tous, moi pour tous. Dans l'ensemble du corps, j'ai une vocation personnelle. De même que la main, le cœur, les poumons ont un rôle à jouer dans le cœur, corps humain. Second aspect, que je le veuille ou non, par mon être et par ma vie, j'exerce dans tout le corps une influence heureuse ou maléfique. Toute âme qui s'élève, élève le monde, a-t-on dit. En revanche, le jour où je ne brûle plus d'amour, il en est d'autres qui meurent de froid. C'est vrai tout au long de la vie. C'est très spécialement vrai à l'heure de l'oraison. À cette heure-là, je me dois à tous. Je pense à tous. Je les rejoins tous. Comment ? C'est ce que je vous préciserai en 5 points de vue. Premièrement, en venant à l'oraison, je prendrai conscience de cette foule de frères autour de moi et qui m'aiment, de tous ces visages tournés vers moi. Et je rendrai grâce pour tout ce que Dieu me donne à travers eux. Secondement, je me situerai, toujours à l'heure de l'oraison, au milieu de tous. Je joindrai ma voix à la leur. Je coulerai ma voix dans celle du grand cœur à la louange de Dieu. Troisièmement, je prierai non seulement au milieu d'eux, avec eux, mais je prierai pour eux, demandant pour eux tous les biens dont Dieu veut les combler, tous ceux que plus spécialement il veut leur accorder par ma prière. Je prierai également en leur nom, avec eux, pour eux, en leur nom. Je prendrai conscience qu'en venant à la prière, je suis le délégué de tous, de tous mes amis, de tous mes parents, de tous mes frères, sans exception, connus ou inconnus. Je ne me présente jamais seul à Dieu quand je viens à l'oraison. Cinquième point de vue, qui n'est pas suffisamment présenté de coutume, je l'exprimerai ainsi, ma prière actualise la prière de toute l'Église et je me fais comprendre par une image. Un jour, je visitais une de nos célèbres cathédrales françaises sous la conduite de l'organiste accompagné de sa petite fille de 6 ans. Après m'avoir fait admirer portails, chapiteaux, vitraux, il me conduisit aux grandes orgues. La petite fille adressa à son père une requête qu'il fit d'abord semblant de ne pas avoir entendue. Puis finalement, il céda et mit en marche le moteur. L'enfant, gravement assise sur le siège de l'organiste, à la fois ému et hardi, plaqua un accord. Et voici que tous les vieux saints de pierre, patriarches, prophètes, martyrs, vierges, s'éveillent. La cathédrale se met à vibrer de la base à la fine pointe de sa flèche. Et voici que la petite fille, émerveillée, dispose pour prier son Dieu de bien plus que de sa frêle voix. Du cœur immense de tous les saints qu'elle a réveillés, de la voix puissante de l'antique cathédrale soudain tirée de son mutisme. J'espère, par cette image, vous faire prendre conscience de cette réalité admirable que, comme disait Claudel, toute la création, visible et invisible, toute l'histoire, tout le passé, tout le présent et tout l'avenir, toute la nature, tout le trésor des saints multiplié par la grâce, tout cela est à notre disposition, tout cela est notre prolongation et notre prodigieux outillage. L'héroïsme des missionnaires, l'inspiration des docteurs, la générosité des martyrs, le génie des artistes, la prière enflammée des contemplatifs. Et j'en arrive à la troisième partie de cet entretien. Tous pour chacun, chacun pour tous, ensemble pour Dieu. Je vous avoue que chaque fois qu'à la prière, je médite les deux premiers aspects de l'Église que je viens de vous présenter, j'éprouve grand amour pour cette immense assemblée de frères dont je ne peux pas me passer et qui ne peuvent pas se passer de moi. Et je ne doute pas que vous éprouviez le même amour pour l'Église ainsi comprise. Mais faisons attention. Ce n'est pas une assemblée close, ce n'est pas un cercle fermé. Cette assemblée de frères est toute orientée vers Dieu. Ensemble pour Dieu. Ce ensemble, c'est justement le grand corps du Christ dont je vous parlais dès le début. Et la prière de louange et d'intercession qu'autrefois, la nuit, le Christ vivait solitairement dans la montagne, maintenant le Christ la vit solidairement dans toutes les parties du monde où son grand corps est vivant, composé de tous ceux qui peu à peu se sont attachés à lui. C'est pourquoi je vous disais au début de cette oraison que l'Église, sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes, est toute vibrante, toute vivante de la prière de Jésus-Christ. Il est dans la vie de cette Église un moment tout à fait privilégié où éclate la louange de Dieu. C'est la messe. C'est l'heure où le Christ communique à son grand corps cet élan d'amour fou du Père qui l'a fait donner sa vie. Donner sa vie pour que l'humanité devienne, selon le mot de saint Paul, le peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Oui, c'est à la messe le moment privilégié où éclate cette louange de la gloire de Dieu. La messe, on n'y pense pas assez peut-être, est le sommet vers lequel convergent toutes les activités de l'Église. L'enseignement, que signifierait-il? À quoi bon, s'il ne débouchait pas dans la messe? Le gouvernement lui-même, il n'a d'intérêt que dans la mesure où précisément il structure ce peuple de la louange. La sanctification, mais c'est à la messe qu'elle s'accomplira, qu'elle s'enrichira, qu'elle se perfectionnera. L'évangélisation, mais c'est tout simplement la convocation de tous les hommes pour assister à la messe. Elle est vraiment le sommet. C'est pourquoi il nous faut comprendre l'oraison par rapport à la messe. L'oraison, elle est le moment où l'homme prend conscience, où le chrétien prend conscience du Christ vivant venu en lui lors de la communion, afin de poursuivre au milieu des hommes sa vie tout animée du double amour, unique à la fois pour le Père et pour l'humanité. Tous pour chacun, chacun pour tous, ensemble pour Dieu. C'est à cela que je vous invite maintenant.